Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Jacques Planchon, conservateur du musée de Die et du DIWA, qui va établir un bilan des innombrables chantiers archéologiques qui ont été menés dans la région depuis un an.
Depuis un an, oui.
Voilà, Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors, ben voilà, hein, j'ai planté le décor, il n'y a plus qu'à... Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous et l'INRAP, ces temps-ci ?
Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé beaucoup de choses, simplement parce qu'il y a eu pas mal d'opérations archéologiques qui se sont faites dans le cadre de projets d'aménagement ou de travaux d'aménagement qui ont eu lieu dans le DIWA en 2013. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que 2013 a été l'année la plus riche en découvertes, au moins pour la commune de Die, et donc il est sorti pas mal de choses intéressantes.
On va peut-être commencer par lister un petit peu tous les chantiers sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler. Hein. La Place de la République, la cave coopérative, Chamarge, Cocose, Le Plot, Saillant et même un sondage à Luc. J'en ai oublié ?
Non, là on n'a rien oublié. Bon, on va peut-être commencer par la Place de la République parce que c'est sans doute le chantier qui a marqué le plus les esprits. Alors le chantier de travaux, d'aménagement de la place, bon, qui est quasiment terminé maintenant. Mais en effet, l'archéologie a pris quand même pas mal de temps. C'était prévu dans le planning des travaux, donc l'archéologie n'a pas ralenti les travaux. Enfin, les archéologues ont tenu leur délai. Donc on se souvient peut-être ou pas des sondages qui avaient été faits en 2011. 2011-2012, qui avait livré un certain nombre d'informations. Bon, on se doutait bien de toute façon que sous la Place de la République, on avait des vestiges, puisque Die est une ville romaine, une cité épiscopale médiévale, donc on savait qu'il y avait des choses en dessous. Les sondages ont livré un certain nombre d'informations, et ça a nécessité derrière de faire une fouille, qui n'a pas eu lieu sur l'ensemble de la place, puisque le projet a été réaménagé pour éviter d'avoir à fouiller la totalité de la surface. Ce qui aurait été hors de prix, hein, clairement.
Oui, mais ça doit être très frustrant.
Ah, pour les archéologues, de toute façon, une fouille archéologique est toujours frustrante parce que une fouille archéologique a des limites. Et on est certain qu'il y a des choses très intéressantes au-delà des limites de la fouille. Alors si on s'habitue pas, il vaut mieux faire un autre boulot. Mais quand on fait de l'archéologie, on s'habitue à cette frustration, on ne pourra pas tout voir. Ça c'est clair. Par contre, dans les deux zones de sondage, de fouilles archéologiques qui ont été conservées, on a sorti quand même pas mal de choses intéressantes. Bon, il y a eu déjà des points qui ont été faits là-dessus, notamment une grosse conférence à la cathédrale. Je vais peut-être plutôt parler de ce qu'on a trouvé dans la deuxième partie des fouilles. Et puis on reviendra sur quelques objets issus de la première partie. Pour la deuxième partie, on a ouvert donc une zone de fouilles en face de la sous-préfecture, là où on attendait le cimetière qui fonctionne avec la cathédrale. Puisque Bondy est une ville épiscopale, on a donc une cathédrale, mais qui fonctionne à la fois comme siège d'un évêque, mais aussi comme église paroissiale. Il y a les deux fonctions en même temps sur le même bâtiment, et comme toute église paroissiale, il y a un cimetière autour. Puisque au Moyen-Âge, les gens préfèrent être enterrés à proximité d'un lieu saint, en espérant que cette proximité va leur permettre d'atteindre plus facilement le paradis. Donc, autour de la cathédrale de Die, oui, il y a un cimetière dont on se doutait qu'il se développait surtout devant la sous-préfecture, enfin devant le bâtiment qui est maintenant la sous-préfecture. Et de ce point de vue-là, on n'a pas été déçus, puisque, en effet, dès les premiers coups de pelle, on est rapidement tombé sur des tombes. Donc, un étagement de tombes, hein, il y avait 5 ou 6 niveaux de tombes différents. Ce qui correspond bien avec ce qu'en disait un curé du XVIIIe siècle, hein, qui disait que chaque fois qu'on creusait un trou pour enterrer quelqu'un, la terre était pleine, quoi. Le cimetière était vraiment plein et ça posait un certain nombre de problèmes, donc on a pu le vérifier directement. Et on a pu établir donc qu'il y a un étagement de tombes qui démarre probablement au Xe-XIIe siècle, donc un peu plus tôt que ce qu'on pensait, et qui se termine comme prévu au XVIIe-XVIIIe siècle. Voilà.
Alors, quel intérêt a-t-on de découvrir des cadavres, enfin en tout cas des squelettes ? Qu'est-ce que ça peut fournir comme enseignement ?
Alors, là j'aurais 2 réponses différentes. D'abord, quel intérêt de le faire ? Je rappelle simplement que si les archéologues ne passent pas, l'appel mécanique, elle, passe quand même. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fouillé est détruit sans être regardé. Alors ça, c'est toujours le même message pour les gens qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites avec ces squelettes? Vous pourriez pas les laisser tranquilles ?» Alors c'est vrai que nous, quand on les fouille, ils ont droit à la truelle, au pinceau, on s'occupe d'eux, on essaye de comprendre comment ils ont vécu, etc. Donc moi, j'estime qu'on essaie de leur donner une deuxième vie. Alors quand c'est la pelle mécanique toute seule qui s'en occupe, les os sont fracassés, les squelettes sont mis en vrac et ils partent directement dans les remblais. C'est-à-dire qu'éventuellement, quand vous faites votre baraque, si vous avez besoin de rembler devant, vous allez vous retrouver avec des morceaux de squelette de la cathédrale qui seront déversés avec. Donc, où est le respect là-dedans? Je pense qu'il est plus du côté des archéologues que du côté de l'aménageur et des travaux sans surveillance. Ça, c'est une première chose. L'autre intérêt, c'est que les squelettes, les os, portent énormément de renseignements. Alors, on n'a pas les moyens de faire réellement de la police scientifique. On va pas faire des prélèvements ADN sur tous les squelettes, etc. Mais on s'en rapproche quand même. Les investigations menées par les archéologues ressemblent quand même un petit peu à ce que fait la police scientifique. Et du coup, on peut déterminer, alors évidemment, le sexe et l'âge des personnes au moment de leur mort. Mais aussi, les os gardent la trace d'éventuelles carences alimentaires pendant l'enfance ou l'adolescence. Ils gardent la trace d'éventuelles marques spécifiques correspondant à des travaux. Par exemple, quelqu'un qui fait du cheval 8 heures par jour va développer des calcifications osseuses sur l'intérieur des cuisses qui se retrouvent sur les os. Donc là, on peut déterminer qu'en effet, on a affaire à un cavalier ou un chevalier. Bon, c'est un exemple, on n'en a pas eu à dire, mais c'est pour montrer que les os peuvent garder des traces. Et ça nous permet, nous, de mieux comprendre la qualité de vie de ces époques-là, éventuellement de percevoir des carences alimentaires, donc des périodes plus difficiles que d'autres. Sur la taille aussi, les dimensions, ça permet de vérifier les moyennes. Et de vérifier aussi que la population a tendance à grandir petit à petit, avec les hormones, la nourriture très riche qu'on a maintenant, qui est différente de celle du Moyen-Âge. Enfin, ça amène énormément d'informations sur le niveau de vie général dans une ville médiévale telle que dit.
Alors je suppose que les résultats de cette enquête digne d'une police scientifique ne sont pas encore là. Tu peux pas encore nous dire si d'aventure ils sont morts de faim entre l'an 1150 et l'an 1270.
Alors de toute façon, on pourra pas être aussi précis que ça. Éventuellement, si on trouve des traces vraiment singulières, on pourra essayer de rapprocher ça d'événements historiques connus, mais c'est relativement rare de pouvoir le faire. L'étude anthropologique, de toute façon, n'est pas encore faite. Donc là, on aura des renseignements, je pense, dans le courant de l'année 2014, voire au début de l'année 2015 au plus tard. Pour le reste, on a quand même quelques renseignements sur les modes funéraires, la façon dont les défunts sont enterrés, donc avec des constructions plus ou moins intéressantes, plus ou moins raffinées, des cercueils en bois ou des coffres en pierre. On a aussi une petite surprise, on a un pèlerin avec deux coquilles Saint-Jacques qui a été enterré. Donc c'est quelqu'un qui a fait au moins un, peut-être deux pèlerinages. Alors, en sachant que la coquille Saint-Jacques n'est pas forcément l'emblème d'un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. La coquille Saint-Jacques, c'est l'emblème du pèlerin. Donc peu importe qu'il ait fait un pèlerinage vers Saint-Jacques, vers Rome ou vers Jérusalem. Et ici, on est plutôt sur la route des pèlerinages de Rome et de Jérusalem, plutôt que sur la route de Saint-Jacques, évidemment.
Ça dépendait d'où il partait.
Ça dépend d'où on part, mais on part peu d'Italie pour Saint-Jacques. En général, en Italie, on ira plutôt sur Rome ou sur Jérusalem. Et sur les Alpes, si on passe à Die, en général, on va plutôt vers l'Est que vers l'Ouest. Bon, c'est des généralités. Après, deux coquilles, peut-être qu'il a fait les deux. Il était un coup sur l'Atlantique et un coup sur la Méditerranée. Ça, on ne sait pas, malheureusement. Les coquilles nous le diront peut-être, parce que... les coquilles Saint-Jacques, on a deux sous-espèces différentes, une pour la Méditerranée, une pour l'Atlantique. Donc un spécialiste va pouvoir nous dire si c'est des coquilles uniquement méditerranéennes ou s'il y en a une de chaque. Et là, ça serait en effet très intéressant.
Quel organisme mène ces travaux de police scientifique, ADN et compagnie?
Alors il y a plusieurs organismes, c'est tous des entreprises privées ou un établissement public qui sont agréés par l'État. Il faut un agrément de l'État pour intervenir en archéologie. Pour ce qui est de la place de la République, c'était l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui est un établissement public. Pour ce qui est d'autres opérations qui ont eu lieu dans le Diwa et Adi, on a droit à plusieurs entreprises différentes. Enfin, j'y reviendrai au fur et à mesure qu'on déroulera les opérations. Pour le reste, j'oubliais quand même une petite chose. Aux alentours du cimetière qui a été fouillé sous la place de la République, il y a eu aussi un suivi des travaux, notamment pour l'enterrement des réseaux, alors que ce soit électrique, égout, etc. Il y a eu pas mal de tranchées qui ont traversé la place. Donc on a essayé de suivre un petit peu ces travaux-là, ce qui nous a permis de repérer d'autres éléments de bâtiments sur lesquels on est en train de travailler pour les comprendre. Parce que dans des tranchées, c'est beaucoup moins facile que quand on ouvre large, évidemment. Et on a aussi fait des découvertes un peu inattendues, c'est-à-dire des éléments de statuaire médiéval qui proviennent du cloître de la cathédrale ou éventuellement d'une ancienne version de la cathédrale, avant celle de 1250. Et puis encore plus inattendu, parce que c'était à une très faible profondeur, on est tombé aussi sur la partie basse d'une statue en marbre, une statue de femme, qui, en fonction des dimensions, si on la reconstituait, ferait environ 2,50 m de hauteur. Ce qui est considérable, et ce qui pose énormément de questions sur son emplacement d'origine, sur la façon dont elle est arrivée jusque là où on l'a trouvée, mais qui nous renseigne un petit peu plus sur la richesse de la ville romaine, évidemment.
Quand tu parles de la partie basse, c'est jusqu'à ses orteils ?
Donc quand je parle de la partie basse, on a un socle, et puis la statue est complète depuis les pieds jusqu'à peu près aux genoux. Alors comme c'est une femme, évidemment, on voit quasiment que les doigts de pied, puisque le reste est recouvert, hein, c'est une robe. N'oublions pas que les Romains sont méditerranéens et on ne représente pas les dames avec des chevilles. La robe descend jusqu'en bas. Ce qui est assez amusant, parce que par contre, pour les divinités, on n'hésite pas à les représenter nues. Mais la nudité n'est pas vécue par les Romains de la même façon. Pour la statuaire, la nudité indique souvent justement le caractère divin ou héroïque du personnage. On représente rarement des personnages vivants, nus. Vivant, on est habillé. Une fois qu'on est mort et déifié ou héroïsé, là, on va être représenté nu.
Donc vraisemblablement, il s'agissait d'une plébéienne.
Eh bien, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que certaines déesses sont représentées habillées. La nudité est réservée aux divinités, mais l'habillement n'est réservé à personne. C'est-à-dire qu'on a des civils ou des dieux qui sont représentés habillés. Donc, manque de bol, on aurait du nu, là on serait sûr, c'est une déesse ou une héroïne. Mais habillé, ça peut être n'importe quoi. C'est la dimension qui va nous donner une indication. 2,50 m de hauteur, c'est manifestement soit une déesse, soit une impératrice. Il y a très très peu de chances pour qu'une femme du peuple... Bon. Qui a les moyens de se payer une statue. Donc même une aristocrate, il y a peu de chances qu'elle se paye une statue de 2,50 m de hauteur.
Alors ce genre de découverte incomplète, là, si on parle du socle jusqu'au genou, c'est plein d'enseignements pour vous en tant qu'archéologue, mais est-ce que ça vaut le coup d'être exposé un jour? Parce qu'il manque tellement de choses que... Est-ce que c'est intéressant?
Celle-là sera exposée un jour, parce qu'en fait, elle complète une série qu'on a au musée de Die. On a beaucoup de parties basses de statues. Henri Deuzé, en son temps, avait fait une exposition sur les pieds à l'époque romaine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemplaires de pieds romains au musée. Donc là, ça nous en rajoute un couple supplémentaire. Et surtout, ça complète la série parce qu'on a beaucoup de pieds d'hommes et très peu de pieds de femmes. Donc ça permet de compléter quand même un petit peu. L'autre élément à prendre en compte, c'est que c'est quand même une statue monumentale. Et même si elle n'est conservée que jusqu'au genou, elle reste quand même très impressionnante. Alors après, il y a d'autres nouveautés concernant la première partie de la fouille, c'est-à-dire la place de l'horloge, hein, grosso modo. Donc le parvis de la cathédrale. Pour rappel, on y avait trouvé des bâtiments du 16e, 17e siècle qui venaient se raccorder contre le mur du cloître médiéval démoli ensuite. On avait trouvé aussi les traces des potences et des gibets du 16e, 17e, là encore, utilisés notamment pendant les guerres de religion. Donc ça, c'était un peu inattendu, assez intéressant. Et puis surtout, un sondage profond pour un trou de plantation d'arbres. On a pu descendre beaucoup plus profondément, à 2,80 m de profondeur. Et on est tombé sur des fresques murales romaines, donc des peintures en couleur, qui sont absolument magnifiques et qui sont à l'heure actuelle en cours d'étude dans les locaux de l'INRAP à Valence.
Oui, alors je reviens un peu sur cette histoire de gibet, parce que j'avais cru entendre parler que le Diwa avait été de tout temps un havre de tolérance dans lequel on ne maltraitait pas les gens qui n'étaient pas de la même confession. Je me suis trompé ?
Oui.
C'est-à-dire qu'aussi on maltraitait les gens qui ne croyaient pas au même Dieu ? Ici.
Non, il ne faut pas rattacher ça directement à la tolérance religieuse. Simplement, que ce soit le Moyen-Âge, que ce soit l'époque moderne, ce ne sont pas des époques excessivement éclairées. si tant est que la nôtre le soit d'ailleurs, mais simplement dans la mesure où on a attendu 81, si mes souvenirs sont bons, pour abandonner la peine de mort. Et donc avant 1981, on condamne à la mort, plus ou moins allègrement, et dans le Divois comme partout ailleurs. Donc au Moyen-Âge, les gibets sont plutôt à l'extérieur de la ville, les toponymes en parlent, hein. On a le ruisseau des Pendus en direction de Luc, qui marque quasiment la limite de la commune, et de l'autre côté, quand on va sur Poney, on passe au quartier des Fourches. Les Fourches, c'est l'endroit où on suspend les criminels, hein. Donc on a des pendus des deux côtés de la ville, au Moyen-Âge, ça c'est clair. Et pour l'époque moderne, là on a des gibets qui sont en ville, c'est-à-dire c'est pour la pendaison. Et ensuite le pendu est décroché et va être raccroché un petit peu plus loin, en général à la sortie de la ville, pour servir d'exemple aux gens qui rentrent et qui sortent. Donc là il y a une vertu exemplaire. Alors là-dessus c'est quand même assez amusant, puisque ça fait quoi? Ça fait 2-3 000 ans qu'on condamne joyeusement des gens à mort, avec toujours derrière la tête la notion d'exemplarité et de... Enfin, ça va servir de leçon. Donc pendant 2 à 3 000 ans, on a continué à condamner à mort. Moi, il me semble que c'est suffisant pour se dire qu'en effet, ça n'a jamais servi de leçon à personne.
Alors je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai oublié de poser une question qui me rendait perplexe concernant les squelettes trouvés sous la préfecture. Tu as bien dit tout à l'heure que s'il n'y avait pas eu de fouilles archéologiques, les squelettes trouvés par les pelleteuses auraient servi de remblai. Mais vous, qu'en avez-vous fait ?
Alors nous, pour l'instant, ils sont soigneusement emballés. Ils vont être ensuite déballés par un anthropologue qui va les étaler sur une table. Alors je sais pas si vous avez suivi... Enfin, il y a des séries américaines qui font ça très bien, la série Bones notamment. On voit exactement comment ça se passe. Bon, de façon romancée, là on est dans un labo, il se passe beaucoup moins de choses, mais on étale en effet les squelettes sur les tables, on essaie de les recomposer en entier. Et ensuite on étudie os par os pour voir en effet quelles traces de carences, quelles traces de maladies, etc. on peut retrouver dessus. Et puis pour déterminer bon, les données de base, le sexe et l'âge. Ensuite, ces squelettes sont remis dans un emballage et sont conservés à titre documentaire. Généralement, soit dans des réserves de musées, soit dans un dépôt archéologique. Exceptionnellement, on va procéder à une réinhumation, mais ça ne se fait que de façon exceptionnelle.
Quand on a peut-être identifié un grand homme ou non ?
Alors, l'identification, ça c'est un autre problème. C'est vrai que ça peut arriver, notamment sur des fouilles qui ont eu lieu là, dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle, sur les grands champs de bataille de la Première Guerre mondiale, éventuellement de la Deuxième aussi. Là, il peut y avoir des études un peu plus poussées pour arriver à l'identification de la personne, soit parce qu'il a les éléments d'identification militaire sur lui, le bracelet ou un collier, soit en fonction de ce qui est conservé dans ses poches. Mais ça ne peut se faire que sur des périodes extrêmement récentes, puisque passé un certain délai, tous ces éléments vont disparaître sur le squelette lui-même. Et de toute façon, les éléments qui pourraient permettre une identification ont disparu aussi des archives. C'est-à-dire prendre un squelette et le raccorder avec un acte de décès quelconque du XVIIe ou du XIVe siècle, c'est quasiment impossible.
Bah, je te remercie Jacques pour toutes ces précisions, mais on va peut-être passer un peu aux autres chantiers. Par exemple, qu'avez-vous trouvé à la cave coopérative ?
Alors la cave coopérative, il y a eu dans un premier temps une phase de sondage. Alors ça se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'un aménageur dépose son permis d'aménager, hein, autorisation de travaux, permis de construire, et ces dossiers sont instruits par divers services préfectoraux, préfecture départementale ou préfecture de région, et chaque service émet un avis ou une opinion sur les travaux à réaliser, de façon à respecter la réglementation. Et donc au sein de ces services, dans le cadre de la région, il y en a un qui s'appelle le service régional d'archéologie, qui est un service de l'État, et qui émet des prescriptions archéologiques. Et là, pour le coup, à la cave coopérative, on s'en souvient ou pas, mais en 91, dans les précédents travaux d'agrandissement, avait été trouvé un menhir absolument monumental, puisqu'il fait 4 mètres de hauteur, ce qui en fait le plus grand menhir de tout le sud de la France, qui avait été découvert à cette occasion. Donc bien évidemment, de nouveaux travaux d'agrandissement de la cave nécessitaient une nouvelle opération de surveillance archéologique. Donc il y a eu des sondages préalables qui ont livré en effet des indices d'occupation à l'époque néolithique, donc la même époque que le menhir à peu près. Et ces sondages ont été suivis de fouilles, alors qui ont montré deux choses intéressantes. C'est d'une part qu'en effet il y a une occupation assez dense de ce secteur. Occupation, alors... Là, l'étude est encore en cours, hein. C'est des périodes anciennes, l'étude prend toujours un peu plus de temps. Donc, je ne peux pas vous qualifier exactement la teneur des découvertes. Simplement, on sait qu'il y a une occupation à l'époque néolithique, ça c'est clair, qui fonctionne peut-être en lien avec ce menhir et les menhirs qui avaient peut-être encore autour. Et puis l'autre chose intéressante et totalement inattendue, ça a été de montrer que jusqu'à une époque assez récente, probablement 15e ou 16e siècle, ces étendues, on est dans la plaine de Chamarges, la Chandillon-Chamarges, on a des terrains actuellement relativement plats, en pente très douce en direction de la Drôme, mais ça c'est relativement récent. C'est-à-dire que avant l'époque moderne, avant la Renaissance, on avait manifestement des terrains avec beaucoup plus de passages de ruisseaux dans des petits ravins qui peuvent faire 3 à 4 mètres de profondeur, avec donc un terrain beaucoup plus collinéen, quoi. Et manifestement, il y a eu des gros travaux pour aplanir le terrain, c'est-à-dire pour combler les dépressions, pour canaliser les ruisseaux dans des écoulements pérennes, notamment le ruisseau de Cocose, qui manifestement a été repoussé pour n'occuper plus qu'un lit relativement étroit, de façon à gagner de la place pour la mise en exploitation agricole du territoire. Alors évidemment, qui est à l'origine de ces travaux? Ça, c'est la bonne question. Là encore, j'attends les résultats définitifs de l'étude pour voir si on peut avoir des datations un peu précises et si on peut mettre ça en relation avec les divers propriétaires qui se succèdent sur ces terrains-là.
Donc il est encore trop tôt pour avoir tous les résultats de ces travaux. Alors vous êtes un peu partout puisque apparemment vous auriez fait des sondages à Luc aussi.
Alors il y a eu aussi des sondages faits par l'INRAP à Luc-en-Diois. Alors petit rappel là encore, hein, les sondages de diagnostic, c'est-à-dire on fait des trous à l'appel mécanique pour voir ce qu'il y a dans le terrain, mais simplement quelques tranchées. Cette phase de diagnostic se fait uniquement par le biais de l'INRAP. Sauf dans les collectivités où il y a des services archéologiques spécifiques. Mais sinon, c'est l'INRAP qui intervient sur tout le territoire. Par contre, la phase de fouille, qui va éventuellement suivre la phase de diagnostic, si le diagnostic est positif, cette phase de fouille, elle, est soumise à concurrence et peut faire intervenir des opérateurs privés, mais agréés par l'État. Voilà, ça c'était une parenthèse. Pour ce qui est de Luc, en effet, il y a un projet de maison de retraite à Luc, donc projet d'aménagement. Et comme Luc est aussi une capitale romaine, dont on connaît mal l'étendue, justement. Il y a eu des sondages archéologiques, de diagnostics qui ont été faits à cet emplacement-là, qui se sont livrés relativement décevants, en tout cas de mon point de vue, parce que le maire de Luc, lui, est très content, par contre, puisqu'il n'y a pas eu de découverte majeure, et que donc les travaux d'aménagement ont pu se faire dans la foulée. Ce qu'on a trouvé, c'est des choses assez étonnantes, puisqu'on a des séries de fossés qui font environ 2 mètres de large pour 1 mètre de profondeur, qui sont parallèles tous les 10 mètres, dans le sens de la pente. Et ça n'apparaît évidemment pas sur les cadastres anciens, enfin cadastre 19e. Donc c'est des aménagements qui sont plus anciens et qu'il est relativement difficile d'interpréter. Alors moi j'ai donné mon hypothèse perso, mais qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'on n'a pas assez d'éléments pour interpréter ça correctement. Je me demande s'il n'y a pas eu des problèmes d'écoulement d'eau à Luc à un moment donné de l'histoire. On sait qu'il peut y avoir des péjorations climatiques, des phases où il pleut beaucoup plus, où le temps est moins sympathique. Et donc, dans une phase de ce genre-là, il y aurait pu y avoir des problèmes d'écoulement. Et dans ce cas-là, le terrain aurait été drainé avec des fossés parallèles installés à intervalles réguliers pour permettre des écoulements plus faciles en cas de nappe d'eau qui arrive. Alors, à quelle époque? Ça, c'est tout le problème. Évidemment, moi, je pencherais plutôt pour l'époque romaine, mais rien n'est absolument évident. Probablement avant le Moyen-Âge, de toute façon. Mais ça reste à déterminer. Donc là, il faudra voir s'il y a d'autres opérations qui se font plus tard et qui permettront d'amener des éléments nouveaux. Mais de toute façon, ça montre quand même qu'il y a une prise en compte de ces problématiques d'écoulement d'eau et de drainage assez tôt autour de Luc et certainement à l'époque romaine.
À partir de quelle époque peut-on bénéficier justement de renseignements sûrs, précis, administratifs de type cadastre et autres?
Alors, les premiers cadastres connus sont d'époque romaine, en tout cas pour nos secteurs. Après, quand on part en Mésopotamie, le problème est un peu différent, mais pour nous, c'est époque romaine. Le plus ancien cadastre répertorié en Gaule, c'est celui d'Orange, qui date de l'époque de Vespasien, donc dans les années 70-71 après Jésus-Christ, et qui correspond à une refonte cadastrale. On pourrait presque parler de remembrement, le terme est totalement impropre. Mais c'est une refonte cadastrale, ce qui sous-entend qu'il y avait des cadastres déjà plus anciens. On suppose que les premières cadastrations se font à l'époque d'Agrippa, donc l'époque d'Auguste, les premiers temps d'Auguste, aux alentours des années moins 25, moins 15 à peu près.
Mais dans le Diois?
Dans le Diois, on ne sait pas si on a des cadastres. Enfin, il y a forcément des cadastres administratifs. Logiquement, ils doivent être affichés sur le forum et il doit y en avoir une copie d'ailleurs à Rome. Alors pour la copie à Rome, c'est plus compliqué, mais je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on y passerait la nuit. Sur le Diois, il y a probablement eu des cadastres, mais la campagne n'en laisse pas de traces absolument directement exploitables. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Le cadastre romain, normalement, c'est un quadrillage. Hein. Et ça laisse des traces dans le paysage. Sauf que quadriller une vallée qui fait au mieux 1 kilomètre de large, ça sert finalement pas à grand-chose. Le plus simple, c'est de se caler sur les éléments directeurs, notamment la rivière, et donc de se mettre en orthogonale par rapport à la rivière. Comme la rivière tourne, l'orthogonalité va être très relative. Voilà. Alors après, comment fonctionne le cadastre romain à 10 ? Ça, c'est une excellente question. On n'a pas d'éléments
bon, là-dessus. Je n'insisterai pas plus et je te propose de passer aux prochaines fouilles ou en tout cas éléments d'enquête archéologique, à savoir que s'est-il passé au plot ? Parce qu'on vous a vu effectivement le long de la route, les pieds dans la gadoue, avec un air ébahi, extasié devant quelques cailloux.
Oui, alors c'est vrai que les conditions d'intervention au plot ont été un peu spéciales, puisqu'on a eu un printemps assez pluvieux. En revanche, ce qu'on a trouvé, c'est une petite nécropole rurale qui fonctionne probablement en lien avec une villa, donc un domaine agricole romain. Le nombre de tombes n'est pas énorme, on a 3 tombes, ce qui est vraiment peu. C'est des tombes à incinération, c'est-à-dire qu'on va faire brûler les corps sur un bûcher. Le bûcher, d'ailleurs, on l'a retrouvé aussi, l'emplacement du bûcher. On va faire brûler les corps sur un bûcher, et ensuite on récupère les cendres du défunt et les charbons de bois du bûcher, qu'on va enterrer ailleurs avec des offrandes. Donc voilà, les tombes, les lieux d'enterrement, on en a retrouvé 3. 2 dans un petit mausolée d'un peu plus de 4 mètres de côté, un petit bâtiment carré qui était certainement couvert. Alors celui-là était extrêmement intéressant parce que, enfin pour deux raisons. D'une part, il avait conservé ses niveaux de sol, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, c'est beaucoup plus arasé que ça et on n'a pas ces informations-là. Là, les niveaux de sol étaient conservés et on avait même les offrandes, c'est-à-dire les vases, les petites urnes qui ont été déposées sur le sol de ce petit mausolée qui fonctionne comme une chapelle funéraire. Donc on va faire des offrandes, pots de fleurs, urnes de vin, urnes d'eau, je ne sais pas ce qu'ils mettaient dedans, là on n'a pas les éléments, mais on a retrouvé les vases en place sur le sol. Ça c'est extrêmement rare, c'est très intéressant. L'autre intérêt qui est différent, c'est que les deux sépultures avaient été pillées. Et on a exactement la méthode utilisée par les pilleurs pour repérer les sépultures dans le mausolée, puisqu'ils sont partis de la porte d'entrée. Ils ont creusé 2 tranchées en diagonale pour rejoindre les angles opposés du bâtiment. Donc ils étaient à peu près sûrs de rien louper. Heureusement pour nous, ils en ont loupé un petit peu, donc on a quand même pu retrouver pas mal de choses. Ce qui nous permet de savoir que ce petit mausolée date du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, pour être plus précis, c'est probablement la deuxième moitié du 1er siècle, hein, dans les années entre 50 et 100, quoi, grosso modo. Et ce petit mausolée a été construit contre un grand enclos funéraire qui servait certainement de jardin funéraire. C'est une chose qui se fait à l'époque romaine. Alors là, tout le problème, c'est qu'on est sur le bord de la route, puisque c'était des travaux d'agrandissement de la route hein, dans lesquels on intervenait. On était sur le bord de la route et on a pu avoir que le mur de façade et les 3 premiers mètres de ce grand enclos funéraire qui fait 15,50 m de façade. Donc il est probable qu'il s'enfonce au moins de 12 mètres à partir de la route. Donc on n'a pas pu tout fouiller. Ce qu'on peut en dire, c'est que s'il y a des sépultures dans cet enclos-là, elles sont plutôt vers le fond, c'est-à-dire dans les parties où on n'a pas pu aller. Et en revanche, ce qui était amusant, c'est qu'on a trouvé encore en place le petit sentier qui permettait de relier l'entrée de l'enclos funéraire en direction du centre de l'enclos et du fond de l'enclos. C'est-à-dire qu'il y avait un aménagement paysager avec un petit sentier qui permettait de se rendre à l'intérieur. Donc là aussi, des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et puis, dernière chose, une sépulture isolée, toute seule, à l'extérieur de l'enclos, qui est sans doute la dernière installée, probablement dans les années 80 après Jésus-Christ. Voilà. Donc c'était assez intéressant. Ça permet de mieux comprendre aussi le fonctionnement de la campagne directement aux alentours de la ville, ce qu'on appelle le secteur périurbain ou suburbain. Et d'avoir en plus quelques éléments de datation, sans doute à mettre en relation avec la villa romaine la plus proche, enfin le domaine agricole le plus proche, qui se trouve à Saint-Féréol, donc à 400 mètres de là à peu près. Voilà. Et puis surtout, ça nous donne un élément précieux, puisque on se doutait bien que la voie romaine passait à peu près sous la route actuelle. Vu l'emplacement des différentes structures funéraires, là on en est sûr. La voie romaine passe grosso modo sous la départementale actuelle. Trop en profondeur, Donc ça n'a pas été atteint par les travaux d'agrandissement. Heureusement pour moi en tant qu'automobiliste, et tant pis pour moi en tant qu'archéologue.
Il y a à ce point une accumulation de sédiments, enfin on en avait déjà parlé dans une émission, mais l'accumulation de sédiments est généralisée, c'est pas que dans les villes.
Alors ça dépend, là les sépultures étaient à 80-90 de profondeur à peu près, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui les a aussi préservés puisque ça les a mis en dehors des labours. C'est-à-dire que le socle des charrues actuelles qui descend à 30 cm ne pouvait pas atteindre les sépultures, donc elles étaient conservées, en tout cas dans l'état dans lequel nous on les a trouvées. Par contre, la route est beaucoup plus en profondeur et il devait y avoir un petit muret de soutènement ou un petit talus qui séparait les mausolées, donc qui était en contre-haut, en surplomb par rapport à la route. Et la route doit être au moins 1m50, 1m70 de profondeur. Mais quand on regarde bien, en fait, il y a encore un dénivelé, hein, c'est-à-dire que le champ est un peu... Quand on va vers Luc, le champ sur la gauche est plus haut que la route, qui elle-même est plus haute que le champ qui est en direction de la Drôme. Donc le dénivelé devait déjà exister à l'époque romaine, ça sans problème, mais en étant organisé un petit peu différemment, la route était plus basse qu'à l'heure actuelle.
Oh là, disons. Tous ces enseignements à partir de quelques bouts de cailloux, c'est absolument fascinant.
Un peu plus que quelques bouts de cailloux quand même. Hein. Les sépultures, alors... Au départ, on était vraiment enthousiastes là-dessus, parce que bon, on s'attendait, une fois qu'on a trouvé les vestiges, hein, qui étaient inattendus, eux, par contre. On savait pas du tout qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, mais une fois qu'on a su à quoi on avait affaire, ben, on savait qu'on aurait beaucoup d'informations. On en attendait un petit peu plus, parce qu'en général, les sépultures, quand elles ne sont pas pillées, sont remplies de mobilier, du mobilier entier, puisqu'il est déposé entier, donc nous, normalement, on le retrouve entier aussi. On pouvait s'attendre à des choses relativement riches. Là, à cause du pillage, il y a eu pas mal de pertes en ligne. Donc, on a retrouvé quand même des céramiques quasiment complètes. Une urne funéraire intégrale qui n'est pas encore fouillée, qu'on va fouiller en labo, là, je pense, dans le courant de l'année. Et puis, une fiole en verre complète, et puis d'autres complètement explosées. Et des petits éléments assez intéressants, puisqu'on a fait des prélèvements, qu'on a tamisés, qu'on a triés, ce qui nous a permis de mettre aussi en évidence des fragments d'épingles en os, des épingles assez épaisses, alors épingles à cheveux, épingles à vêtements, on ne sait pas trop. Et puis, une intaille, c'est-à-dire une petite pierre gravée, qui peut servir de sceau sur de la cire, qui normalement est prise dans une bague. Alors la bague est manquante, mais l'intaille existe encore. Une intaille qui présente une main tenant un bouquet, ce qui est plutôt sympa, ce qui est original. Donc bon, on n'est absolument pas déçus des découvertes. Simplement, c'est vrai que c'est dommage que les tombes aient été pillées avant qu'on arrive. Longtemps avant, elles ont été pillées probablement au XVIe siècle.
Alors maintenant, qu'en est-il des fouilles de Chamarges et Cocose ?
Alors là, on est sur le projet d'aménagement d'une zone artisanale, le long de la route de Poney. Alors pareil, projet d'aménagement, diagnostic de l'INRAP. Là, on n'en est pour l'instant qu'à la phase de diagnostic. Et personnellement, j'attendais pas grand-chose, parce qu'on n'avait aucune découverte signalée vraiment sur ce secteur. Et ben finalement, c'est extrêmement intéressant ce qui en est sorti, ce qui prouve aussi que même à l'endroit où on n'attend rien, on peut sortir pas mal de choses. Ça vaut pour le Plot comme pour Chamarges. Il en est sorti une petite tombe romaine totalement isolée, ça arrive. Et surtout, le plus intéressant, c'est deux tumulus, un de l'âge du bronze et un probablement de la transition bronze-fer ou du premier âge du fer, grosso modo entre 1500 et 700 avant Jésus-Christ pour les deux tumulus. Alors un tumulus, c'est la version locale de la pyramide. C'est-à-dire qu'on va enterrer quelqu'un et par-dessus, on va faire un énorme cône de terre et de pierre. Et là, donc, on en a deux. Un qui fait 15 mètres de diamètre, l'autre qui fait 11 mètres de diamètre, donc c'est pas rien. Et c'était totalement inattendu et évidemment extrêmement intéressant.
Et sur une hauteur de combien de mètres ?
Alors, pour un tumulus de 15 mètres, on peut estimer que ça peut monter à 3 mètres. Hein. Alors simplement, ils ont été extrêmement rasés. Ils ont sans doute eu droit à un moment donné au même traitement que les terrains d'en face, c'est-à-dire à la cave coopérative, c'est-à-dire que pour les besoins agricoles, on va finir par tout mettre à plat. Et donc on va faire disparaître ce qui dépasse. Heureusement pour nous, le terrain avait déjà monté avec des apports successifs d'eau boueuse. On est sur des pentes là encore, hein. Il n'y a rien de plat dans le Divois, donc l'eau circule tout le temps, amène des particules fines, avec le temps ça finit par déposer et monter en hauteur. Donc heureusement pour nous, il y avait déjà eu des dépôts qui ont fait monter le niveau avant que le sommet des tumulus soit rasé, donc il en reste quand même quelque chose. Mais à d'autres endroits en France, on connaît des tumulus qui ont été complètement arasés, y compris au bulldozer.
Oui, mais alors à ce moment-là, comment peut-on prouver quoi que ce soit s'il ne reste plus rien ?
Ben, dans ce cas-là, on retrouve uniquement ce qui est enterré sous le tumulus, c'est-à-dire ou les Maccabées. Là, pour le coup, il en reste un petit peu plus, mais bon, il y aura une fouille derrière, sans doute, donc on en saura plus, à mon avis, dans le courant de l'année 2014, ou au plus tard, début 2015, puisqu'il y aura une reprise des travaux archéologiques sur ce secteur-là.
C'est passionnant, ça va nous donner l'occasion de te revoir.
Absolument.
On veut avoir la suite des événements.
Ce qui est intéressant surtout, c'est que des tumulus, une fouille de tumulus, c'est une première dans la Drôme. On n'a pas de tumulus connu et encore moins de fouillé. Enfin, connu peut-être, fouillé certainement pas sur le secteur. Donc une première dans la Drôme, une première dans le Diois évidemment. Et par contre, ça va nous permettre aussi de faire des relations et des comparaisons avec les Hautes-Alpes. C'est pas loin, c'est juste de l'autre côté du col de Cabre. Quand on redescend, on arrive sur une des communes qui s'appellent Chabestan et Lauze, je crois, sur lesquelles il y a 27 tumulus répartis sur un peu moins de 2 km. Oui. Ce qui sous-entend aussi que, pour l'instant, Adi, on en a deux, il n'est pas impossible qu'on en trouve d'autres. Parce que quand on compare, 27 tumulus sur 2 km, là on en a deux sur une soixantaine de mètres à peu près, ça laisse de la marge pour en mettre plein d'autres. Donc voilà, mais je veux pas non plus... il y en a certainement d'autres aux alentours. On verra plus tard.
Bon, la suite en 2015
suite au
à peu
prochain
près.
Numéro, hein? 2014 ou 2015.
Très bien, le rendez-vous est pris. Et enfin, apparemment, vous auriez aussi fait des trouvailles du côté de Saillant.
Alors tout à fait, Saillant, il y avait eu pareil des sondages de diagnostic qui ont été faits par l'INRAP dans le cadre de la réfection du réseau d'égouts, donc ça concerne toute la rue principale du village. Et ces fouilles ont livré des choses intéressantes, enfin ces sondages ont livré des choses intéressantes, le diagnostic était positif. Donc ça a été suivi par une fouille qui elle a été faite par une entreprise privée qui s'appelle Chronoterre. Des gens tout à fait compétents. Et alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une fouille tout à fait comparable à celle de la place de la République pour la partie préfecture, c'est-à-dire qu'on est exactement aux alentours de l'église Saint-Géraud, et la fouille a livré le cimetière de l'église, évidemment. Alors, l'intérêt, c'est qu'on est dans des pentes un petit peu plus fortes, et donc les tombes s'étagent de façon un peu moins serrée. Donc, elles sont mieux conservées que celles de Die. Et en prime, eux, ils sont arrivés à descendre un petit peu plus bas, et donc ils ont des datations un petit peu plus hautes. On arrive certainement à l'époque carolingienne.
Et c'est la même chose, ils sont empilés les uns sur les autres ?
Ils sont empilés les uns sur les autres. Enfin, les tombes sont empilées les unes sur les autres. En fait, c'est pas empilé, c'est simplement au fur et à mesure qu'on enterre les gens, le niveau monte pour diverses raisons, le niveau de circulation. Et ça permet de creuser toujours à la même profondeur, mais sans taper dans les tombes du dessous. A dit d'ailleurs, au passage, pour permettre au niveau de monter, il y a certainement eu des remblaiements de la place, enfin du cimetière, de façon à gagner de la hauteur et à pouvoir enterrer des gens toujours à une profondeur, à la même profondeur par rapport au niveau du sol, mais au-dessus des tombes déjà en place. Alors, pour Saillant, là, je ne sais pas s'il y a eu des remblaiements du cimetière, mais de toute façon, on a plusieurs étages de tombes avec des choses extrêmement bien conservées. Et eux, ils ont du bol, puisque certaines tombes contenaient du mobilier. C'est-à-dire que des gens ont été enterrés notamment avec ce qu'on appelle des pégots, c'est des cruches dans lesquelles on peut imaginer qu'il y a eu soit de l'eau bénite, soit du vin qui accompagnait le défunt pour son dernier voyage. Voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'on trouve des pégots à Saillant, hein. Il y avait déjà eu des découvertes dans les années 50-60. Là, on a remis la main dessus, mais dans le cadre d'une vraie fouille archéologique et pas juste d'une surveillance de travaux où on récupère ce qu'on peut, qui n'est pas fracassé par les pelles mécaniques. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Et il y a eu aussi une découverte d'un petit gobelet en verre, tout à fait comparable à ce qui avait été découvert dans les années 70 à Sainte-Croix. Sur des tombes à peu près de la même époque, donc entre le 11e et le 13e siècle, pour le coup. Donc là aussi, des choses très intéressantes. Et puis, cerise sur le gâteau, dans les derniers instants de la fouille, est sorti des maçonneries d'un bâtiment carolingien, donc époque carolingienne, ce qui ne nous rajeunit pas, qui était soit un élément de l'église Saint-Géraud, mais une version antérieure, soit un bâtiment accolé à l'église Saint-Géraud et qui fonctionne avec. Et alors là, le plus extraordinaire, c'est bon, il y a un peu d'élévation qui était conservée sur une trentaine de centimètres, c'est pas beaucoup, mais les enduits peints étaient conservés sur cette élévation. Donc de nouveau, on a sorti des fresques en couleur, alors qui celles-là sont pas romaines, elles sont carolingiennes, et encore une fois, c'est une première dans le département et peut-être même au niveau régional.
On arrive à voir ce que ça représente, c'est bien conservé ?
C'est assez bien conservé. Alors, ça reste de la fresque médiévale. Alors, par rapport aux Romains, qui sont vraiment carrés sur leur méthode de réalisation, au Moyen-Âge, il y a quand même des pertes en ligne. Le problème, c'est ce qu'on appelle les enduits d'après. C'est-à-dire, les enduits qu'on va mettre contre le mur avant de mettre la peinture sont extrêmement fins à l'époque médiévale. Ils s'amusent pas à mettre des centimètres d'épaisseur. Du coup, c'est un petit peu moins bien conservé. En revanche, il y a eu la semaine dernière une petite opération pour prélever ces fresques. Et apparemment, le prélèvement s'est plutôt bien passé. Donc, je pense que d'ici quelques temps, le temps de la consolidation, de la restauration et de l'étude, d'ici quelques temps, on pourra admirer ces fresques qui seront... allons savoir, ça restera peut-être assaillant. Si saillant ne peut pas s'en occuper, ça finira au musée de Die. L'un ou l'autre. Mais de toute façon, ça restera dans le secteur.
D'ailleurs, je vois à ton air réjoui que toutes ces trouvailles te mettent de bonne humeur. Il y a forcément de quoi, parce que ça donne du grain à moudre. Et puis, je pense que c'est une façon de reconstituer un petit peu notre histoire, tout ça.
C'est une façon de reconstituer notre histoire. Ça donne énormément d'éléments pour avancer dans la compréhension de ce qui s'est passé ici avant nous. Ça a aussi un intérêt, c'est que petit à petit, les lois sur l'archéologie préventive préalable à tous les travaux d'aménagement finissent par se mettre en place dans notre secteur, ce qui veut dire que on va avoir un petit peu moins de destruction et de disparition de vestiges sans qu'on ait pu les étudier avant, ce qui s'est fait quand même allègrement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc ça, c'est aussi le côté positif. Alors évidemment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, tout ça a un coût. Pour tout ce qui est sondage de diagnostic, c'est prélevé sur une redevance qui est perçue sur tous les permis de construire ou autorisations de travaux qui sont déposés, donc une petite redevance qui est pas excessive. Après, la fouille est toujours à la charge de l'aménageur, selon le principe destructeur-payeur. Alors là, c'est toujours le mauvais moment pour l'aménageur, quand il faut se payer une fouille, parce que ça coûte quand même pas mal. Il y a des aides de l'État plus ou moins importantes en fonction du projet, mais voilà, ça a un coût. En même temps, on est sur un territoire qui est extrêmement riche du point de vue archéologique et historique. Notre histoire, on la connaît plus ou moins bien et tous ces petits éléments viennent compléter le puzzle. Et puis, sur un territoire qui vit principalement d'agriculture et de tourisme, alors c'est vrai que pour l'agriculture, c'est pas forcément le plus intéressant, sauf que c'est pas inintéressant non plus de savoir que d'autres agriculteurs ont exploité ce territoire bien avant nous. Pour ce qui est du tourisme, c'est quand même des plus-values à long terme extrêmement bénéfiques. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on paye au départ, mais... on a toutes les chances de récupérer sur les années qui viennent.
Je ne peux qu'abonder et je t'encourage à nous recontacter dès que tu auras du nouveau ou des éclaircissements supplémentaires sur ce que l'INRAP et vous avez trouvé. Je te remercie Jacques pour ces éclaircissements et donc à la prochaine.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Interview. Hey, the bird. Interview. L'interview du jour.